les aveugles, les boiteux, l'orphelin et la veuve. Il y a plein de catégories d'hommes et de femmes qui souffrent, dont nous parle le prophète Jérémie dans la première lecture. Et Jésus rencontre aujourd'hui dans l'Évangile un aveugle. Il nous rencontre, chacun de nous, dans nos ténèbres intérieures, dans l'obscurité, dans les moments creux de nos vies, dans les moments d'ombre, d'égarement. Il rencontre chacun de nous, il vient me rencontrer dans mon ignorance, les ténèbres de l'ignorance. L'incapacité d'écouter les autres, d'écouter Dieu, d'apprendre la dureté du cœur, le péché. Toutes les ténèbres existentielles que nous vivons, l'obscurité complète d'une rupture, d'une solitude imposée, subie. Jésus vient rencontrer ma détresse, mes souffrances, mes épreuves. On imagine bien cet aveugle au bord du chemin pour lequel les bruits, les paroles, les cris, la foule qui passe peut être ressentie comme hostile, menaçante, dangereuse. C'est la ténèbre de la peur qui nous envahit parfois. C'est la peur du manque des sens dans la vie quand on est au bord du chemin. Cet aveugle de Jéricho, c'est un homme qui nous représente. Il est assis parce qu'il ne peut pas se conduire tout seul. Il est condamné à être assis au bord du chemin. Il ne peut pas avancer dans la vie. Combien de fois nous n'arrivons pas à avancer? Nous avons l'impression que tous les chemins sont bloqués pour nous. Et il est pauvre. Il doit mendier. C'est-à-dire à ses ténèbres, à l'obscurité de son monde, s'ajoute cette dépendance totale, il est à la merci des autres, incapable de faire quoi que ce soit pour pouvoir vivre par ses propres moyens. Combien de maladies, combien de personnes qui sont dépendantes sont représentées par cet homme assis au bord du chemin, dont on ne connaît même pas les noms. On sait qu'il est le fils d'Antel, Bar, c'est le fils en hébreu, Bartimée. Mais Bartimée, il entend du fond, de la profondeur, comme dit le psaume, de la profondeur de sa détresse, il entend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il crie, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et il nous apprend à crier du fond de notre détresse. À crier sans nous laisser freiner, sans nous laisser modérer dans notre angoisse par la foule qui voudrait qu'on se calme. La foule qui voudrait être modérée et qui ne se rend pas compte de la souffrance de celui qui est au bord du chemin. Il y a toujours une foule anonyme qui veut empêcher notre accès à Dieu. Et parfois cette foule est constituée par ceux qui entourent Jésus. Et nous devons nous poser la question, est-ce que j'empêche les autres ou je permets l'accès des autres au Seigneur? Parce que la foule n'est pas toute mauvaise, il crie des plus belles, dit l'Évangile, et alors Jésus s'arrête, il casse le protocole, il se tourne vers cet homme et il dit « appelez-le ». Et de la foule même, il y a certains qui viennent lui dire « courage, lève-toi, il t'appelle ». Et cet homme aveugle, il bondit, il s'élève, « courage, lève-toi, il t'appelle ». Frères et sœurs, nous qui sommes ici, réunis d'une manière ou d'une autre, nous avons accès à Jésus. Et il y a une multitude autour de nous auquel il faut aller dire, à laquelle il faut aller dire, courage, il t'appelle. Il y a des multitudes d'hommes, de femmes, qui ne connaissent pas leur aveuglement parfois, qui ne savent pas de l'existence de la lumière, ils ne savent, l'aveugle ne sait pas comment sont faites les couleurs, les formes, la lumière. L'aveugle, il s'ignore, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, autour de nous, il y a plein d'hommes et de femmes qui sont au bord du chemin, même s'ils prennent la route ou les transports tous les jours, même s'ils ont bonne santé et bien chauffé. On peut être au bord du chemin, être aveugle. Et Jésus, il appelle. Et cet homme, il bondit, il court, il entend la voix de Jésus, il court, il se laisse guider et il abandonne son manteau. C'est un détail, mais dans l'Évangile, il n'y a pas un mot de trop. Abandonner, quitter son manteau, c'est comme la Samaritaine qui va oublier sa cruche au bord du puits parce qu'elle a rencontré Jésus. Cet homme, il abandonne sa seule richesse, son unique protection pour courir. Il entend Jésus qui l'appelle. Il a crié vers Jésus avec confiance. Nous, à la distance, nous pouvons trouver un peu bizarre que cet homme qui sait que c'est Jésus de Nazareth, il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth, mais il l'appelle Jésus, fils de David. Mais dans ces petites contradictions, il y a un signe d'espérance qui devrait nous apprendre à prier, parce que souvent nous ne savons pas prier. « Je ne suis pas digne », je m'entends dire parfois. « On n'est pas digne de Dieu. Je ne sais pas prier. Je ne mérite pas. » Je ne veux pas déranger le Seigneur. Tout ça, c'est des excuses maladroites, parfois sincères, mais Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Fils de David, pourquoi c'est important? Parce que David est celui qui avait reçu les promesses. David, qui était un homme pécheur, qui avait commis l'adultère, le meurtre, il ne faut pas l'oublier, qui ne va pas avoir le droit de construire au Seigneur un temple parce que ses mains étaient pleines de sang. Il avait combattu et pas toujours de manière très propre. La sainteté de David, ce n'est pas la sainteté d'un homme irréprochable, mais de celui qui se livre à la miséricorde de Dieu. Et c'est lui qui reçoit la promesse du salut. « C'est pas toi qui vas me construire une maison, lui dit le Seigneur. C'est moi qui vais te construire une maison. Et de ta descendance va naître celui qui va sauver Israël. » Crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi », c'est « Seigneur ». C'est crier « Seigneur, parce que tu l'as promis à cause de ta bonté, de ta miséricorde et pas de ma justice. » pas à cause de mes mérites, mais de ton immense miséricorde, prends pitié de moi. Voilà. Comment faire pour prier? Et dire, prier, c'est... Nous faisons la liste, nous cherchons les mots, et il faut dire, Seigneur, tu es bon, tu as dit que tu nous aimes, tu nous as appris à prier, tu nous as promis, et c'est parce que tu nous as promis que nous oserons nous présenter devant toi. Fils de David, prends pitié. La première chose qu'il demande, c'est, Seigneur, que ton cœur soit sensible à ma situation. Il fait appel d'abord à cette bonté qu'il connaît, à cette miséricorde. Que cette miséricorde infinie puisse se renverser sur moi. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Je suis dans l'épreuve, je suis dans la misère, je n'ai d'autre recours que toi. Et Jésus s'approche et avec un grand respect lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Parce qu'il aurait pu lui dire à la distance « Vas-y, retrouve ta vue. » Et non, Jésus, il veut d'abord établir un dialogue avec nous. Il n'est pas un magicien qui vient résoudre tous les ennuis de la vie humaine. Il ne vient pas se substituer à notre liberté. Il vient respecter notre liberté. Et c'est pour cela que l'aveugle est appelé à exprimer son besoin. Que je vois. Que je vois, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi qu'il a exprimée quand il a crié, Jésus, fils de David. Jésus qui veut dire le sauveur, hein? Dieu sauve. Nous avons besoin d'être sauvés. Jésus, fils de David, prends pitié. Et Jésus lui dit, va. Il ne lui dit pas, voilà, je te donne la vue à condition que... Mais lui, une fois qu'il ouvre ses yeux, il ne voit autre chose que Jésus. Il n'y a pas d'autre destinée. Il n'y a pas d'autres chemins pour la vie humaine, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas une autre lumière que Jésus-Christ. Que nous apprenions de cet aveugle à nous tourner vers Dieu, que nous apprenions à prier, que nous sachions que dans toutes les épreuves dont personne n'est épargné, parce que la vie humaine est faite comme ça, dans toutes nos épreuves, quel que soit notre détresse ou notre péché, nous pouvons crier, nous faire entendre, crier plus fort encore, Jésus, fils de David, prends pitié de moi.